Merci. Comme les intervenants suivants vont parler un peu du même sujet, je vais regrouper toutes les questions à la fin pour qu'ils aient le temps de s'exprimer. Donc, je vais passer la parole à Jean Vorer et Serge Ratier de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, donc, qui sont l'héritier de la Ligue du coin de terre et du foyer fondée par l'abbé Lemire en 1896, dont on vous parlera cet après-midi. Je leur laisse la parole. Merci.
Bon, après ce panorama de ce qui est les jardins familiaux et collectifs, je vais vous parler de l'expérience particulière sur un groupe de jardins. Ce groupe de jardins est situé à Villejuif. Donc il y a 83 parcelles et deux parcelles pédagogiques situées dans le parc des Hautes-Bruyères. Donc les jardins occupent à peu près un cinquième de la surface du parc. Les jardins, comme le parc, sont ouverts au public 24 heures sur 24, 365 jours par an. Depuis 1989, j'ai été témoin de l'évolution de ce groupe de jardins, qui était au départ un groupe de jardins comme tous les autres groupes de jardins, mais qui, au fil des années, est devenu un véritable espace collectif au service de toute la population. Bien sûr, sur la partie jardin, ce sont les familles de jardiniers qui cultivent le jardin et, on va dire, sont responsables à la fois de l'esthétique, de la diversité et de l'entretien de leur espace. Mais, en fait, le fait que ce soit ouvert au public, leur travail profite, non pas en termes de légumes, mais en termes d'agrément, à tous les autres utilisateurs du parc. J'ajouterai que c'est aussi un moyen de faire des économies pour la collectivité, puisqu'on a calculé que le mètre carré entretenu par les jardiniers revient moins cher que le mètre carré entretenu dans le reste du parc. Alors, je pense qu'il y a quelques éléments qui ont facilité la réussite de cette évolution. Tout d'abord, dans la conception du parc, dans la partie jardin, de larges espaces ont été laissés aux autres utilisateurs du parc. Les allées sont nombreuses. Entre les jardins, il y a des placettes, des pelouses où les gens peuvent s'installer pour pique-niquer. Il n'y a pas de division des espaces ou d'espaces réservés, sauf les parcelles pour les uns ou pour les autres. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une certaine esthétique. En particulier, les abris de jardin sont l'œuvre du cabinet d'architecture de Renzo Piano, ce qui donne une certaine unité à l'ensemble qui n'est pas, bon, qui est pas désagréable. Dès l'ouverture des jardins, il y a un facteur qui est venu faciliter les relations entre tous les autres utilisateurs, c'est que les sportifs, par exemple, qui faisaient du footing ou des choses comme ça, se sentaient en sécurité du fait de la présence des jardiniers. Et si le parc est gardé dans la journée, le fait que les jardiniers soient là très souvent tout le matin ou tard le soir fait que cette impression de sécurité est demeurée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans les endroits du parc où les conversations naissent spontanément, ben, il n'y en a que deux. Il y a l'espace des jardins, où les gens, quelle que soit leur manière d'utiliser le parc, lient conversation facilement, et le canal, depuis que des canards et des poules d'eau y nichent. Le morcellement des allées de jardin tend à favoriser les relations entre petits groupes de jardiniers voisins. Et le fait que ce soit des petits groupes crée des liens forts entre ces jardiniers et leurs familles, et ceci, quel que soit leur âge et quelle que soit leur origine. Parce que vous pensez bien qu'à Villejuif, les origines sont extrêmement diverses. Et cette sérénité de relations tend à favoriser les relations avec les autres utilisateurs du parc, les promeneurs de chiens, les sportifs que j'ai déjà cités, les gens qui travaillent autour et qui viennent pendant la pause méridienne, les familles des malades de l'Institut Gustave Roussy qui est au bout du parc, et ainsi de suite. Tout ça crée une ambiance agréable et assez détendue. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter sur ce groupe-là. Je pense que cette forme d'équipement collectif est aujourd'hui dans les zones urbaines des grandes métropoles une solution économiquement viable pour avoir des lieux où les gens sont en contact avec la nature, où les gens peuvent avoir entre eux des relations détendues, où sitôt que les gens se mettent à parler entre eux, quand on parle de jardin, peu importe l'endroit d'où on vient, on parle jardinage, on évoque des souvenirs, on fait des projets d'avenir, on souhaite que ça dure. Et donc je pense que ce genre d'équipement est vraiment un équipement d'avenir à préserver.
Voilà. Merci Serge, merci de nous avoir promenés dans ton jardin. On s'y sent bien. Je pense que vous avez tous ressenti ce côté assez formidable, assez inattendu à notre époque, de zone où on se sent bien. Alors moi, je voudrais, comme nous sommes à la SNHF, qui est une vieille dame, et que notre Fédération nationale des jardins familiaux, c'est aussi une vieille dame, je voudrais vous ramener en 1900, dans les années 1900. Je pense que vous avez senti dans les présentations précédentes le côté bouillonnant de cette période. On a inventé plein de choses qui sont des choses qu'on vit encore aujourd'hui. Et en particulier au niveau législatif, on a vu apparaître plein de notions nouvelles. Alors, nouvelles, pas tout à fait, on l'a dit, mais enfin, des choses qui se sont enfin concrétisées. Et dans le Nord, à Hasbrouck, un abbé, le Mire, a une idée, concrétise une idée, qui est de dire, ces ouvriers, avec un côté tout à fait paternaliste, on l'a dit, ces ouvriers, il faut les sortir de la beuverie, où on imagine qu'ils sont en permanence, et il faut leur donner un jardin. Alors cette idée, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'elle vient dans un contexte où apparaît aussi une autre idée, c'est l'idée d'association. Alors ces deux idées, sachez qu'elles existent aussi dans d'autres contextes. L'idée d'association, c'est aussi le familistère. Vous avez sûrement entendu parler du familistère. Donc il y a une idée sous-jacente qui est une idée à la fois catholique paternaliste, mais aussi un peu socialiste, qui est l'idée d'association. L'idée de se dire, voilà, des gens qui n'ont a priori rien de commun, ou pas grand-chose, si ce n'est leur travail, ils travaillent à la mine, eh bien il va falloir leur proposer quelque chose qui les motive, et une vision un peu d'avenir, où on va les rendre responsables. Donc la grande idée des jardins familiaux, c'est à la fois l'idée de donner un jardin, donc une parcelle, et là on se retrouve avec la notion agricole de terroir. J'ai ma parcelle, même si elle n'est pas votre propriété, mais c'est l'endroit où on sait qu'on est libre libre de cultiver à la façon dont on le souhaite, une parcelle de liberté. Et mais on donne aussi des contraintes, parce qu'on est dans une association. Et dans une association, eh bien, on a le droit de faire certaines choses, mais on a aussi le devoir de travailler collectivement. Et le fait de travailler collectivement fait qu'on devient plus intelligent. Eh oui, le fait d'être ensemble, vous le savez bien, permet que des idées s'expriment, des idées qui ne sont pas forcément les siennes, mais des idées qu'on va faire évoluer dans les têtes, et puis dont on va se dire, bah, finalement, ce truc qu'on a discuté, il n'est pas si bête, hein, et on va le faire ensemble. Et on voit dans nos associations eh bien, du travail en commun. Et ça, c'est vraiment formidable, c'est-à-dire que les jardiniers font des choses ensemble. Ils ne sont pas seulement sur leur parcelle pour cultiver leurs légumes qui sont sains, qui sont bons, et faire des économies, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ils sont aussi là parce qu'ils sont ensemble. Et des gens qui sont effectivement souvent très différents à Villejuif, on l'a dit, mais partout en France, vous avez des jardins où il y a des populations qui sont extrêmement diverses et qui se retrouvent effectivement à cultiver des légumes qui ne sont pas les mêmes. Tout ça fait de la mixité sociale, tout ça fait du lien, et tout ça est bon pour la société en général. Deux exemples de choses qui n'étaient pas prévues par l'abbé Lemire, ou sous-jacentes en tout cas, et qu'on a fait mûrir au sein de nos jardins. J'ai travaillé très longtemps à l'interprofession des semences, donc je suis un monomaniaque de l'espèce et de la variété. Et dans nos jardins, il y a effectivement besoin, et on l'a dit à propos de la non-utilisation des pesticides, on a besoin de variétés résistantes. Donc, tout ça fait qu'on a beaucoup réfléchi au sein du GNIS à travailler avec les nouveaux jardiniers. Les nouveaux jardiniers, c'est qui ? C'est les enfants. Parce qu'on manque de ce lien intergénérationnel, comme on dit maintenant dans le jargon des sociologues, pour que les parents et les grands-parents apprennent à leur progéniture à cultiver un jardin. Donc on a fait Jardinons à l'école. Jardinons à l'école, ça a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, et on l'a fait avec l'éducation nationale. Ça a très bien marché, ça a permis que dans les écoles se créent des jardins, mais on s'est aperçu au sein du GNIS, et c'est l'époque où j'ai commencé à me dire, mais il faudrait peut-être aussi travailler avec les jardins familiaux, on s'est aperçu qu'il y avait des parcelles pédagogiques dans les jardins familiaux. Il commençait à y en avoir, et il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que les jardins qui sont des jardins de jardiniers acceptent, s'ils le décident collectivement, de s'ouvrir à d'autres. Les autres, c'est les écoles. Alors c'est très difficile de faire rentrer une école dans un jardin, pas seulement parce que c'est des enfants et qu'ils vont créer de la perturbation, mais surtout parce que toutes les normes, les lois, les textes qui verrouillent les faits de faire sortir les enfants des écoles nous enquiquinent au niveau des jardins. Donc il faut discuter pour trouver l'instit intéressé, faire en sorte que ça dure suffisamment pour que la parcelle confiée à l'école soit quand même entretenue, faire en sorte que les jardiniers, s'ils sont volontaires, ils vont entretenir la parcelle pendant les congés scolaires, parce que ça aussi c'est un problème dans les écoles. L'été, au moment où les jardins produisent, les enfants ne sont pas là. Donc il faut s'arranger pour cultiver des espèces qui sont soit à récolter avant les vacances scolaires d'été, soit après. Voilà, tout ça est un peu compliqué, mais on y arrive. Et dans les jardins, qui acceptent de faire des parcelles pédagogiques, eh ben on s'aperçoit d'abord que ça plaît aux jardiniers, parce que souvent, les anciens qui ont du mal, quelquefois du mal à faire leur propre jardin, qui se font déjà un peu aider par les plus jeunes, ils seront ravis d'aller discuter avec les enfants et de les aider à mettre en place leur parcelle de jardin. Donc, tout ça crée du lien. Et puis, non seulement ça crée du lien entre les jardiniers et les enfants, mais ça crée du lien aussi, globalement, sur le pourtour du jardin. Parce que toutes ces plantations qui sont faites par les jardiniers des villes, qui sont entretenues, souvent très bien entretenues, sont souvent abîmées par les enfants en particulier, qui casse une branche en passant, qui cueille ceci ou cela dans la jardinière. Et le fait que les enfants participent au jardin, eh bien, ça les responsabilise. Et quand on discute avec les maires, on sera au salon des maires qui ont lieu en ce moment, pour discuter jardin, eh bien, les maires qui ont installé des jardins constatent que quand les écoles sont mobilisées dans les jardins, eh bien, tout autour du jardin, il y a moins de destruction. Et que ce sont les enfants qui disent aux plus grands, eh bien, écoute, non, touche pas à ça, parce que ça, on sait. C'est une plante, et une plante, ça se respecte. Voilà, donc on voit bien que dès qu'un jardin accepte de s'ouvrir, eh bien, c'est un bénéfice global pour l'ensemble de la société. C'est pour ça que nous, au niveau de la fédération, on milite pour que non seulement les jardins existants soient maintenus, parce qu'il y a une pression énorme des villes pour récupérer des parcelles qui peuvent être construites, mais aussi pour créer de nouveaux jardins, dire aux maires, non seulement vous avez le pouvoir de garder les jardins existants dans votre PLU, de les protéger, mais en plus, quand il y a des parcelles disponibles, faites en sorte de créer des jardins. Voilà un discours que la Fédération nationale tient en permanence auprès des élus, tous les niveaux, pour essayer de protéger et de développer les jardins. Alors, autre exemple que je voulais vous donner, qui n'est pas prévu par l'abbé Lemire, voilà, pas du tout, c'est les jardins en pied d'immeuble. Alors voilà quelque chose de complètement nouveau, de relativement récent. Vous avez des offices HLM qui s'aperçoivent avec horreur que le gazon et les quelques plantations qu'ils font au pied de leur tour HLM sont en permanence détruites, servent de poubelles aux gens qui jettent par les fenêtres des choses et d'autres, etc., etc. Et donc ça coûte cher d'entretien, et d'autre part c'est désespérant parce que même quand on essaye d'entretenir, eh bien, on n'arrive pas à tenir ces surfaces. Eh bien, nous, au niveau de la fédération, on s'adresse à ces offices de HLM en leur disant, bah, écoutez, soyez raisonnables, arrêtez d'investir pour essayer de maintenir ces zones qui sont des zones qui appartiennent à tout le monde et à personne. Eh bien, faites en sorte que les locataires de ces tours soient eux-mêmes motivés pour devenir les jardiniers au pied des tours. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que on est dans un monde individualiste. Dans les tours, l'ambiance n'est pas forcément à la convivialité. Chacun s'enferme chez soi, a peur de descendre même en bas de la tour. Et donc, il faut arriver à motiver progressivement ces gens pour créer l'association qui va gérer les jardins. Parce que si on se contente de retourner un bout de terrain et puis de dire aux gens de la tour, voilà, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, ça ne devient rien du tout, on le sait. Donc, l'être humain étant ce qu'il est, il faut motiver. Il faut motiver les gens, leur expliquer pourquoi, leur expliquer leur intérêt, leur expliquer que cultiver des légumes, bah, c'est non seulement fatigant, une chose, mais c'est aussi très intéressant pour d'autres points, et que les femmes seules qui sont là, les gens au RSA qui sont là, ben ils ont tout intérêt à avoir une parcelle pour cultiver des légumes et se faire un petit revenu avec leurs légumes. Quand je dis se faire un petit revenu, ça veut dire avoir des légumes à eux, parce qu'ils ne les vendent pas, bien sûr. Donc, on arrive avec ce travail que fait la fédération, que font les associations sur le terrain. On ne dira jamais assez hein, le bien qu'il faut dire pour ces associations de terrain qui font un travail absolument formidable. Et que malheureusement, on a tendance en ce moment à leur mettre des pots de bananes, hein, malheureusement. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Il faut effectivement que les jardins au pied d'immeubles se développent. On fait tout pour ça. On va voir les offices HLM, les bailleurs sociaux, en général, pour leur dire ces terrains ne sont pas des terrains difficiles à exploiter, ne sont pas des terrains inutiles, ce sont des terrains qui pourraient avoir un intérêt dans le lien social. Et l'intérêt du lien social, c'est que les gens qui habitent dans ces immeubles, ben, ils auront, entre guillemets, un intérêt. Je ne dis pas une propriété, mais c'est quand même l'idée sous-jacente. Ils auront intérêt à ce que cette zone soit effectivement propre et intéressante. On a des exemples, hein, même dans Paris, deux zones qui étaient des zones de dealers, disons-le franchement, un triangle entre trois tours avec trois entrées. Vous imaginez ce que ça donne quand vous mettez des guetteurs à chaque entrée. Hein, c'est une zone où on peut facilement échanger tout ce qu'on veut, et en particulier des choses interdites. Ça donne une ambiance absolument épouvantable à côté de la place d'Italie. Et ça donne un lieu qui peut se transformer complètement avec le fait que les jardins qui ont été créés là et bien sont devenus les jardins des locataires des trois tours, avec des parcelles pour les enfants, aucune haie, pas de séparation très visible entre les parcelles, avec des zones de circulation, et voilà un espace qui devient un espace apaisé, où les femmes acceptent de traverser sans risque. Enfin, voilà, on a un espace qui devient un espace social. Voilà, deux exemples, donc les jardins pour enfants, les pieds d'immeuble, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, où les jardiniers, l'association de jardiniers, en s'ouvrant sur l'extérieur, apporte quelque chose d'intéressant à l'extérieur. Voilà, donc en conclusion, je dirais simplement que l'association, c'est la base pour nous, au niveau fédération. Il y a d'autres formes de jardins, qui sont peut-être des jardins moins durables, mais le fait que se crée une association pour gérer un jardin, c'est pour nous quelque chose d'essentiel, parce que dans l'association se créent des liens très forts entre les jardiniers, et que ces liens très forts entre les jardiniers sont des liens qui apaisent l'environnement. Voilà, merci.
Merci à tous les trois. Donc, on va faire passer le micro.
Si personne ne veut s'y coller, je vais m'y coller. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir beaucoup. J'ai deux casquettes. Je suis, parce que je voulais me rattacher à une vieille association, je suis membre non cheminot du Jardin du Cheminot. Et je suis également un peu coordinateur d'une structure qui s'appelle Jardin 19, c'est les jardins partagés du 19e. Alors j'étais très intéressé par l'histoire du parc des Hautes-Bruyères, parce que je l'avais visité au début des années 2000. Et à vrai dire, moi, les cabanes de Renzo Piano, ça, je me mettais à la place des jardiniers, ça ressemble à des abribus. Et j'aurais pas aimé personnellement jardiner là. Mais finalement, d'après ce que vous me dites, peut-être que si. Et là, il y a une réflexion sur les espaces ouverts qui est très, très, très intéressante. Et effectivement, les jardins peuvent servir dans des coins difficiles à se réapproprier de l'espace. Je vais aller voir des choses à Sarcelles ou à Sevran. Je crois qu'il y a quand même une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté des habitants et qu'il y ait un noyau d'habitants qui soit volontaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'initiative vienne des habitants. Si on conçoit ça comme une thérapie qu'on va imposer d'en haut, ça ne marche pas. On a un bon exemple dans le 19e où ça ne marche pas. Le jardin dit Jardin de Léon qui est mort, qui est à la cité Léon Giraud. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais commencer par dire. J'ai d'autres réflexions, mais bon, je vais y réfléchir un peu.
Alors, je n'ai jamais dit que les cabanes de Renzo Piano étaient pratiques pour le jardinier. Mais, heureusement qu'elles ont été conçues comme ça, parce que le fait qu'on n'ait pas le droit d'y toucher à cause de la propriété intellectuelle a fait qu'il n'y a pas eu de dérive, surtout dans la période qui va de l'ouverture des jardins, c'est-à-dire 1989 à 2000, quoi. parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, les jardins, ils n'étaient pas vraiment à la mode. Les jardiniers ont passé pour être des oiseaux passéistes qui allions bientôt disparaître. Et la vie pour nous n'était pas facile. Ce qui fait qu'il y avait une tendance des jardiniers à faire des le plus haut possible, à s'enfermer le plus possible et à construire des espèces d'habitations secondaires ou tertiaires dans leur jardin pour rester cachés. Et en fait, ces cabanes-là, elles ont empêché cette dérive-là. Ça a été au départ compliqué à gérer, c'est clair. Mais aujourd'hui, on peut dire que heureusement qu'elles étaient là et heureusement qu'elles étaient comme ça.
Oui, bonjour, Marc Ménessier, journaliste au Figaro. Vous avez parlé de la pression foncière tout à l'heure, notamment dans les villes. Et bon, on ne va pas se cacher les choses. Cette pression, elle va s'accentuer, notamment avec le... On le voit de partout, hein, depuis quelques années, il y a des constructions tous azimuts. Comment les jardins collectifs, familiaux, comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là, vu cette pression vraiment énorme, cette densification de l'habitat, on entend ça depuis maintenant une dizaine d'années.
C'est effectivement un problème. Bon, par exemple... On parlait des jardins du cheminot tout à l'heure, Jardineau. Bon, effectivement, dans l'association, nous sommes confrontés, puisque la SNCF a évolué beaucoup. Elle est devenue, d'une part, la SNCF, d'autre part, RFF, et elle évolue encore actuellement en ce qui concerne la gestion des terrains. Donc, RFF a donné la gestion de ces terrains à des entreprises comme Nexity, etc. Nexity, qui est une société de gestion de patrimoine. Donc, les gestionnaires de patrimoine mettent en valeur le patrimoine. C'est-à-dire que quand il y a des terrains que nous devons négocier avec ces personnes, eh bien, nous avons beaucoup de difficultés à avoir des prix de location qui soient accessibles à des jardiniers amateurs. C'est-à-dire que nous, on fait du social. C'est-à-dire que les parcelles qu'on met à disposition, on essaie de les mettre les moins chères possibles pour qu'on ait des jardiniers qui puissent bénéficier d'un jardin qui soit rentable. Donc on a parfois des jardins qu'on ne prend pas parce que les coûts qui nous sont demandés sont trop importants par rapport à ce qu'on peut demander aux attributaires. Donc c'est des choses qui se passent actuellement. Bon, et effectivement, avec les villes, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a certaines villes qui reprennent des terrains parce que, par exemple, on a une bretelle d'autoroute à construire et que les jardins sont dans cet espace. Je dirais qu'on a parfois plus de facilité à se faire reloger quand on a une oreille compréhensive, dans certains cas, je veux dire, ça peut arriver. Mais c'est vraiment un problème, effectivement. Ouais.
Alors moi, je voulais juste vous donner l'exemple de Bagnolet. J'habite Bagnolet, qui est une proche banlieue parisienne. On touche le périphérique. Donc, vous imaginez que là, la pression foncière, elle est énorme. Et ben, on a un maire qui a défendu les jardins, qui a mis dans le PLU... la protection des jardins existants et qui fait en sorte que les parcelles, comme on est en plein travaux, tout Bagnolet est en travaux, pour construire effectivement des choses qui sont plus hautes. Alors, toute la difficulté, et on est sur le fil du rasoir, hein, c'est est-ce qu'on fait des tours, est-ce qu'on ne les fait pas, est-ce que... Voilà, bon, je laisse le maire de Bagnolet réfléchir, mais en tout cas, les parcelles qui sont disponibles pendant un certain temps avant construction deviennent des jardins partagés. C'est-à-dire que le temps que ça peut prendre un peu de temps, hein, entre le moment où on a l'idée qu'il va se faire quelque chose sur cette parcelle et le moment où il se passe réellement quelque chose, c'est 4-5 ans. Donc, pendant ce temps-là, on peut avoir des jardins partagés. Alors, la difficulté, c'est que quand les habitants ont occupé un jardin partagé pendant un certain temps, ils sont frustrés quand on leur dit « Attendez, il va falloir déménager ». Et c'est effectivement un vrai problème. Mais on peut arriver à expliquer au maire que il n'y a pas que l'espace vert, entre guillemets. On peut créer au sein des espaces verts, et on a eu l'exemple, des jardins. Hein, et que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de combiner les choses. Pas forcément dans des zones très, très, très denses, d'arriver à trouver des parcelles, mais au moins d'utiliser le mieux possible l'existant pour qu'il soit le plus collectif possible. Voilà, je sens bien que je n'ai pas répondu à la totalité de votre question.
Je rajouterai Jean, donc Vincent Dormeuil, directeur de la Fédération nationale des jardins familiaux. Il y a plusieurs choses. C'est l'ensemble des acteurs de l'agriculture urbaine. Nous devons d'être proactifs auprès des collectivités publiques, des établissements publics, pour valoriser cet espace, on va dire, végétalisé en ville. On parle d'univers de partage, c'est bien cela. C'est quelle est la dimension qui va dépasser, on va dire, la dimension environnementale, la dimension, on va dire, de nourricière, on va dire, du jardin familial. C'est bien ce lien social, c'est tout ce qui va dépasser, on va dire, ce jardin, qui va l'ouvrir vers l'extérieur, et c'est ça que nous pouvons valoriser. Je prends l'exemple du Grand Paris. Le Grand Paris, donc c'est Paris et petite métropole, enfin et petite couronne, c'est bien 5000 hectares en lobby, on va dire, avec et en travaillant aussi avec les politiques, c'est bien 5000 hectares, on va dire, que nous souhaitons créer en plus d'agriculture urbaine dans ce Grand Paris. Et c'est bien parce que nous sachons valoriser les différents exemples de micro-fermes, de jardins familiaux, de nouveaux types d'agriculture, que nous allons pouvoir être proactifs sur comment créer, non pas décréer de l'espace végétalisé, mais en créer, que ce soit du jardin familial ou autre.
Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais vous savez qu'il y a sur les maires aujourd'hui une pression réglementaire et législative très forte pour construire, notamment des logements sociaux, et les maires qui ne suivent pas ces dispositions réglementaires législatives s'exposent parfois à des amendes très fortes. Et alors, effectivement, j'apprends que dans le Grand Paris, il y a ce projet de 5000 hectares de jardins familiaux, mais pour l'agriculture urbaine. Mais moi, je vois dans la ceinture verte, vous avez la ville de, à côté de Saint-Germain-en-Laye, le nom m'échappe, enfin, il y a une des dernières ceintures vertes. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire pour le nom de la commune, où il y a vraiment des surfaces très importantes en culture potagère qui vont être construites. C'est à Montesson, voilà, Montesson, il y a un nouveau PLU, ça va disparaître. Donc il y a un peu deux discours, si vous voulez. On fait disparaître des ceintures vertes existantes parce qu'il y a une nécessité, en tout cas, de densification urbaine. Voilà, donc il y a un peu... Je vous en prie.
Oui, Jean-Noël Gonzalez, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université, urbaniste, et j'ai piloté un vaste programme de recherche sur les jardins collectifs qui s'appelait l'ANR J'assure. Et c'est fort de cette ANR que je peux avoir quelques résultats. En fait, aujourd'hui, la politique des jardins collectifs dans leur ensemble, elle est vraiment ancrée à l'échelle locale. Donc tout ce qui ressort de tous les exemples que vous dites, c'est qu'en fait, c'est extrêmement dépendant d'une politique locale. C'est-à-dire que vous allez avoir des très bons élèves en termes de jardins familiaux et des très mauvais, enfin, en termes de jardins collectifs, très bons élèves de grandes métropoles, par exemple, il y a Nantes. Nantes, où il y a même un élu au jardin collectif dans la ville et où il y a un programme vraiment avéré de développement de ce type de jardin. Et puis des mauvais élèves, j'en citerai pas, mais il y en a beaucoup, effectivement. Or, on rentre là dans ce que vous dites, dans la sorte de schizophrénie du politique, parce qu'effectivement, il y a des injonctions aujourd'hui à construire, mais il y a aussi des injonctions à créer de la biodiversité urbaine, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, une des réponses qu'apporte l'agriculture urbaine, dont il faut vraiment poser des questions en termes de recherche, c'est que, notamment chez les aménageurs, on va dire, on va compenser en disant, ben, on va faire de la ville dense, on va construire, mais sur la ville qu'on construit, on fait des jardins, sur les toits, etc. Et là, il y a un réel problème, parce qu'on perd le rapport au sol comme bien commun, et que réellement les jardins continuent à apporter dans la ville. C'est-à-dire que les jardins, derrière ces fonctions sociales qui ont été évoquées, ben, c'est aussi des fonctions environnementales très fortes, des fonctions, par exemple, d'apport de biodiversité dans la ville, etc. Donc, on est pas mal de chercheurs aujourd'hui à réfléchir à défaut de monétariser l'apport des jardins, qu'est-ce que ça apporte en termes de monnaie par rapport à un programme de construction, à imaginer ces jardins et l'agriculture urbaine en général en termes de services écosystémiques. Qu'est-ce qu'ils apportent comme services et comment on peut opposer finalement ces services à une rente sonnante et trébuchante de l'injonction de la construction. Voilà.
À une plus petite échelle, j'en reviens à un jardin pédagogique et une expérience à Mennecy, une école primaire qui s'est vue ragrandie avec un projet nouveau d'une école. Et autour de l'école, il y a évidemment des espaces verts, en général avec des arbres d'ornement. Mais là, entre la mairie et les enfants, le conseil municipal des enfants, les écoliers, les instituteurs, ce jardin a été décidé d'en faire un jardin pédagogique avec un potager. Et donc il y a 400 mètres carrés, c'est pas énorme, mais chaque école a des espaces verts. Quand elles n'ont pas d'espaces verts, on peut mettre des bacs. On peut faire une expérience de jardin. Et les enfants de 4 classes cette année ont été pris en charge par notre association des jardiniers des 4 saisons. Et nous les initions avec les enseignants qui sont parties prenantes. Tous ne sont pas parties prenantes. La directrice, entre autres, ne l'était pas. Elle avait peur de lâcher des papillons dans le jardin. Tout à fait contre. Mais il y a une expérience qui se fait qui est très positive parce qu'on se rend compte que ce sont les enfants qui tirent les parents et qui leur montrent. Bon, on a une vue sur le parking aussi, donc les enfants montrent aux parents les fleurs, les légumes. Ils en savent plus que leurs parents. Voilà, donc c'est très intéressant, à mon avis.
On ne peut qu'être d'accord avec votre intervention, parce qu'effectivement, au niveau des écoles, c'est aussi très difficile d'accès en fonction des personnes. C'est bien là. Hein. Si on a des personnes motivées, tout va bien. Si après, effectivement, c'est un peu difficile dans ce cas-là.
Je voulais parler à propos d'un jardin pédagogique qui vient de se créer dans le cadre de la Société d'horticulture des Yvelines. La Société d'horticulture des Yvelines organisait pour les enfants des écoles, en particulier du Chesnay, un jardin qui s'appelait les mains vertes. Et les enfants cultivaient une petite parcelle qui faisait quelques mètres carrés, et ça sur un an. Et la responsable de cette activité main verte a dit que ça serait certainement intéressant, compte tenu des réflexions des enfants et de leurs parents, d'organiser un jardin pédagogique pour les parents. Et il se trouve que, dans le même temps, l'arboretum de Chèvreloup a eu besoin d'une plus grande ouverture, d'augmenter son... le nombre de visiteurs, d'augmenter la surface qu'on pouvait explorer et visiter quand on rentrait dans l'arboretum. Et il y a eu un accord de passer avec le muséum qui est le attributaire de cet arboretum. Et donc il y a dans un premier temps une surface de 400 mètres carrés qui a été octroyée. Concédé par l'arboretum pour créer ce jardin pédagogique. Donc vous voyez, je trouve que là, il y a une bonne complémentarité entre l'aspect éducatif, indéniable, mais en même temps, l'intérêt d'augmenter le nombre de visiteurs à l'arboretum, parce que c'est aussi le but poursuivi. Et de ce point de vue, si les choses se passent bien, le projet de jardin pédagogique qui est réservé aux adultes. Alors on peut faire une remarque, la plupart des participants sont des participantes. Hein. Si ce projet pédagogique se développe comme ce devrait être, l'Arboretum accepterait, de, en plus des 400 mètres carrés, d'en proposer 1500 de plus. Donc vous voyez, il y a là effectivement du potentiel de ce côté-là. Et je pense que même si ce que disait Marc tout à l'heure est vrai sur les restrictions de terrain en ville, il y a peut-être aussi des endroits où il y a des possibilités de faire ces activités, parce que, somme toute, il n'est pas besoin forcément d'avoir des très grandes surfaces et des très grandes parcelles. Voilà ce que je voulais vous dire en complément de vos conférences.
Merci, monsieur. Je crois que votre intervention était très intéressante parce qu'elle montre qu'il faut mettre en synergie les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des scientifiques, des acteurs de terrain, tout ça peut cohabiter, non seulement cohabiter, mais créer des choses ensemble. Et effectivement, vis-à-vis d'une municipalité, le fait que vous interveniez en ayant derrière vous l'appui, entre guillemets, de Chèvreloup et du muséum, je pense que ça n'a pas été totalement neutre. Hein. Donc, vraiment, merci pour votre témoignage, parce que ça montre bien qu'il faut aller chercher, effectivement, et quand monsieur disait il faut aller chercher aussi le petit groupe de locataires qui va être intéressé pour mettre en place des jardins au pied d'immeuble, c'est amène des marches. C'est-à-dire que les choses viennent parce qu'il y a une synergie entre les acteurs. Merci.
Merci à tous. Donc, pour vous laisser le temps de déjeuner, nous allons reprendre.